102.1.
Marceau le midi.
Midi 27 minutes. Constatez qu'il se passe quelque chose sur la route. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Ça vous tente de jaser avec nous autres par texto. On fonctionne beaucoup par texto. 418-971-1021. Des fois, Pascal vous répond. Des fois, c'est Tom. Des fois, c'est moi. Quand il y a des fautes d'orthographe, c'est pas Pascal. C'est pas Tom. C'est peut-être moi.
Quand il y a des niaiseries qui se disent, c'est Yannick. Puis des fois, Yannick signe pas. Fait que ching pour être sûr que ça soit pas son nom.
C'est ça. Donc, on parle d'un véhicule en feu actuellement.
Ouais, avec les informations de Québec 511, la 40 en direction ouest, la sortie de la rue Einstein est fermée. Véhicule en feu, les services d'urgence qui sont sur place, on n'a pas eu d'autres informations en lien avec tout ça. Et vous mentionnez aussi un suivi sur Robert Bourassa en direction sud, à la hauteur du boulevard Wilfrid Hamel, la voie droite, qui est bloqué en raison d'une panne, le remorquage qui est en cours. Vous avez d'autres informations sur la route. 418-971-102. Vous mentionnez aussi, je l'avais mentionné en début d'émission, qu'on recherchait quelqu'un, Stéphane Dugal, 55 ans, dans le secteur de Saint-Sauveur. Il a été retrouvé sain et sauf.
Ah, très bonne nouvelle. En passant, c'est pas des fautes. C'est juste que j'ai pas encore trouvé les accents sur mon clavier.
Ah, c'est ça?
Oui.
Ah, c'est long.
Ben oui.
Ça fait 2 ans.
Un jour, je vais trouver les accents. Hey, c'est 15 degrés sur Québec. On nous annonce un 20, une possibilité de 20 degrés pour aujourd'hui. Donc, actuellement, c'est très confortable. Ce soir, cette nuit, généralement nuageux. 40% de probabilité d'averse avec un minimum de 11. Demain, jeudi, jour de paix, alternance de soleil nuages avec un maximum de 19. Et pour terminer la semaine de travail, ben, ce sera nuageux vendredi avec un maximum de 20. Il travaille beaucoup. C'est un docteur. Puis en plus, c'est un politicien aussi. C'est docteur Karim Elayoubi qui est avec nous en studio. Monsieur Elayoubi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Je pense que c'est la première fois en présentiel sur les ondes de Boulevard le midi.
C'est la première fois tout court.
C'est votre première fois tout court. Docteur Karim Elayoubi, vous pratiquez depuis combien d'années?
Ça fait maintenant 7 ans.
7 ans?
Oui.
OK. Vous avez commencé très jeune.
J'ai commencé, non quand même, parce que moi j'ai un parcours qui est assez atypique. J'avais commencé dans une spécialité chirurgicale au départ. Et j'ai décidé de me tourner vers la médecine familiale et la médecine d'urgence. Ce qui fait en sorte que j'ai quand même fait plusieurs années d'études. Donc j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 34 ans. Exactement.
Je pensais que c'était vraiment... Ben, oui, il y a un canal qui est le même, là, mais médecine d'urgence puis médecine familiale, c'était deux canaux pour moi qui étaient différents puis qui avaient des années de plus où il y a vraiment une manière de changer à un moment donné puis que ça ne soit pas si mal.
C'est un très bon point qu'il y a différentes façons de pratiquer la médecine d'urgence. Vous pouvez la pratiquer... ça veut dire si vous êtes médecin de famille, vous pouvez pratiquer la médecine d'urgence. Ce n'est pas tous les médecins de famille qui le font naturellement. Vous pouvez faire... si vous voulez parfaire vos compétences, vous pouvez faire une année supplémentaire à la fin de votre résidence de médecine familiale. Ou vous pouvez, une autre façon, faire la spécialité de médecine d'urgence et là, faire uniquement de l'urgence. Donc, il y a comme 3 façons de faire de l'urgence au Québec.
Puis là, comment vous faites pour faire votre horaire au Parti conservateur du Québec et un horaire de médecin? Je veux dire, on vous entend régulièrement, soit à la télé ou encore à la radio. Puis vous travaillez très fort, vous êtes à l'urgence, vous faites du cabinet aussi. Comment vous faites pour réussir à tout faire ça en même temps?
Je travaille à temps plein en médecine. Comment je peux dire? Ben, disons que j'essaie d'optimiser mon temps, j'essaie de le prendre sur mes temps libres. Puis j'ai quand même une bonne équipe qui est autour de moi à la commission politique. Il faut dire, il y a beaucoup de gens qui sont très travaillants. Donc, je salue là, mon équipe qui travaille très fort et qui m'aide vraiment beaucoup. Là. Sans eux, c'est sûr que je serais pas devant vous aujourd'hui.
Faites-vous du 7 jours sur 7?
Ça dépend des moments, mais je prends des vacances comme tout le monde, puis je suis capable là, de prendre des temps libres également.
Vous êtes un passionné de politique, un peu?
Oui, quand même. Ouais. Ça fait longtemps que ça me passionne, la politique. Moi, c'était beaucoup là, en raison de mes origines. Je suis moitié libanais. Je m'intéressais beaucoup à la politique internationale avant. Okay. Puis, graduellement, en voyant le réseau de santé s'effondrer au Québec graduellement, d'année en année, de décennie en décennie, je me suis décidé, au lieu de demeurer un gérant d'estrade et de chialer toute seule dans mon coin, j'ai dit que j'avais rencontré Éric Duhaime. On s'en était parlé. Il y avait des idées qui étaient assez proches des miennes par rapport au réseau de la santé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lui donner un coup de main puis essayer de prendre la parole sur la place publique pour amener quelque chose de nouveau dans le débat public et essayer de faire avancer les choses, qu'on soit au pouvoir ou pas. Si on est capable de faire avancer ne serait-ce qu'un petit peu les choses, ce sera tant mieux pour tout le monde.
Oui, docteur Elayoubi, d'ailleurs, ce matin, vous avez présenté une étude avec Éric Duhaime qui était une étude comparative sur les systèmes de santé internationaux ainsi que des recommandations pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des systèmes de santé québécois. Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette étude-là?
Bien, exactement ce qu'on a fait, on a engagé 2 chercheurs indépendants, OK, qui... Puis il avait été très clair, les chercheurs, là, si Québec solidaire leur demande le même exercice, ils vont faire le même exercice. Puis si les conclusions ne font pas notre affaire, bien, ils ne feront pas notre affaire. Nous, on avait travaillé, puis moi, de mon côté, j'avais lu beaucoup de littérature internationale sur les modèles de santé. J'en étais venu avec mon groupe sur le comité santé avec des recommandations pour le Parti conservateur, mais on était rendu à l'étape de faire un peu valider qu'est-ce qu'on dit. Est-ce qu'on est vraiment sur la bonne track ou est-ce qu'on est tombé dans une genre de chambre d'écho, puis il faudrait modifier nos choses. Puis on était agréablement surpris. Les deux chercheurs...
Ils vous ont servi à ça. Je m'excuse, je vous coupe 30 secondes, mais ils vous ont servi à ça. Mais c'est intéressant, Yannick, parce qu'ils ont précisé, si on fait affaire avec vous, puis on va de l'avant en regardant, on va vous dire les vraies choses. C'est-à-dire peut-être qu'ils se font interpeller des fois pour avoir des réponses.
Ah, c'est clair.
Exactement.
En relation avec le parti.
Donc, et c'est très important. C'était important pour nous là, que ce soit vraiment indépendant. Puis, les conclusions de cette étude-là, les modèles qui ont été comparés, pourquoi c'est ces modèles-là? Parce qu'on veut regarder, premièrement, il faut qu'il y ait une couverture universelle. C'est pour ça qu'on n'a pas comparé le système américain. Et il faut que le modèle soit plus performant en termes d'accessibilité. Sinon, je veux dire, l'exercice donne rien du tout. Et les modèles, c'était le modèle suisse, le modèle des Pays-Bas et l'Allemagne.
Il y a du privé aussi à ces endroits-là.
Oui, oui, ouais. Exactement. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte. Quels sont les dénominateurs communs? Je vais juste vous nommer rapidement des chiffres. Si on regarde, là, OK, la chirurgie, certaines chirurgies électives, donc genoux, hanches, par exemple, okay. Au Québec, on est à 266 jours d'attente en moyenne. Des fois, c'est même plus que ça. Et si on prend, par exemple, les Pays-Bas sont à 79 jours d'attente. Donc, on est vraiment dans un facteur de grandeur de différent. Lorsqu'on regarde les attentes aux urgences, 4 heures et plus aux urgences, au Québec, on est à 40 % des gens. Aux Pays-Bas, on est à 3 % en Allemagne, 10 % en Suisse, 8 % Donc, il y a vraiment, vraiment des facteurs de grandeur. Pour voir un spécialiste, c'est également des facteurs de grandeur très significatifs.
Mais les chiffres d'attente à l'urgence, je suis tannant, parce que des fois, les journalistes ne prennent pas la peine de donner les bons chiffres. Quand on nous dit, bon, ben, il y a 18 heures d'attente à l'urgence, ils ne calculent pas l'attente dans la salle d'attente. Souvent, c'est l'attente sur la civière. Dans votre étude, est-ce que c'est sur la civière et dans la salle d'attente?
C'est sur la civière.
C'est sur la civière aussi.
C'est sur la civière. Pourquoi? Parce que c'est pas mal l'indice international qu'on utilise beaucoup. Parce que l'attente sur la civière, c'est sûr que l'attente dans la salle d'urgence, je veux dire, c'est très désagréable, on s'entend. Mais l'attente sur la civière, c'est très névralgique parce que ça utilise beaucoup de ressources personnelles, de ressources d'infirmiers. Et ça bloque, ça témoigne aussi d'un système qui, en aval, ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire l'hospitalisation, parce que le patient reste jamais à l'urgence. Il utilise les soins infirmiers de l'urgence, il utilise le personnel de l'urgence, qu'en réalité, il devrait monter à l'étage ou être transféré aux soins intensifs ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un facteur qui est très important, l'attente sur la civière. C'est ce qui paralyse un peu là, les hôpitaux. Lorsqu'on regarde les attentes pour voir un spécialiste, c'est assez important. Un an et plus, 13 % au Québec. Dans ces pays-là, un an et plus, c'est moins de 1 %. Ça veut dire que c'est à peu près inexistant. Entre un mois et un an pour voir un spécialiste, c'est 30 % au Québec. 9 % en Suisse, 11 % Pays-Bas et 15 % en Allemagne. On a vraiment des facteurs de différence et on se rend compte qu'il y a un système qui est beaucoup plus concurrentiel dans ces pays-là. Le réseau privé est utilisé, il y a vraiment un partenariat privé-public je vais juste vous donner un exemple. En Allemagne, il y a au-delà de 70 % des hôpitaux qui, même s'ils appartiennent à l'État comme tel, le mur appartient à l'État, la gestion est faite par des compagnies privées qui sont chevronnées en la matière, qui sont spécialisées en la matière. En l'occurrence, des compagnies comme Capio, comme Ramsey aux États, à l'échelle internationale, Cleveland Clinic le fait également, une compagnie américaine.
Donc, c'est l'administration qui est au-dessus des hôpitaux, qui gère les hôpitaux.
Exactement. Okay. L'administration de plusieurs de ces hôpitaux-là ne se font pas par des fonctionnaires du gouvernement, mais se font par des compagnies privé.
Est-ce qu'on les met en concurrence les unes des autres?
Oui, bien sûr, il n'y a pas seulement une compagnie, ils sont en concurrence. Et lorsqu'on on regarde l'efficacité, souvent l'efficacité et l'efficience vont être meilleures. Pour quelles raisons? Parce qu'ils sont ultra spécialisés à faire ça. Et l'avantage, c'est que lorsque l'État est impliqué, le rôle de l'État, c'est beaucoup d'amener les grandes tendances, les grandes lignes pour protéger le public, pour protéger les patients, à s'assurer qu'il y a un ratio, qu'il y a un ratio d'infirmières, patients qui soit adéquat, s'assurer qu'on ne fasse pas n'importe quoi, ça c'est sûr. Et le privé amène l'aspect plus de l'ingéniosité, plus de l'efficience, de l'efficacité de la gestion. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Autre chose également, ils permettent la pratique mixte, c'est-à-dire, pratique mixte, c'est quoi? C'est ce que M. Dubé là, veut encore rendre plus difficile, c'est que le médecin peut travailler soit au privé, soit au public, de façon sans avoir à remplir de paperasse, sans avoir à se désaffilier de la RAMQ. En ce moment, ça prend un mois si on veut passer d'un à l'autre. M. Dubé veut l'étendre à 6 mois, ce qui fait en sorte que ça va tuer un petit peu ça. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, regardez qu'est-ce qui se passe au Québec. Parfois, par un manque de plateaux techniques, par inefficacité des plateaux techniques, les chirurgies, pour être sûr qu'ils ne finissent pas plus tard que 4 heures, ben à 2h15, la salle d'opération ferme. Ce qu'on ne voit pas dans des plateaux techniques, ce qu'on voit par rapport là, aux pays qui ont été étudiés.
Des chirurgiens qui doivent rester à la maison, ils ne peuvent pas pratiquer la médecine qu'ils ont, normalement, la normalité de pratiquer, puis pour aller au privé pendant ce temps-là.
Tout à fait. Donc, ça augmente ce que ça a démontré dans ces 3 pays, c'est d'augmenter l'offre de services. Et le public demeure toujours important. C'est sûr, de faire de l'oncologie dans le privé, ça n'existe à peu près pas sur la planète. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas du tout, mais de façon générale, pour les cas plus complexes, les cas où qui demandent des investissements colossaux en termes de technologie, généralement, comme les hôpitaux universitaires, c'est beaucoup plus le public qui fait ça à l'échelle internationale.
Le privé ne peut pas se payer ça, là.
C'est que les compagnies ne seront pas intéressées nécessairement à investir dans des sommes faramineuses comme ça, qui ne seraient pas nécessairement rentables. Mais pour des interventions de mineurs à modérés, comme juste à Lévis, là, le partenariat privé-public durant la pandémie avec la ZIC-MD pour la chirurgie de la cataracte, le coût, ça faisait à coût neutre, okay, pour une intervention de la cataracte, mais ils étaient capables d'en faire beaucoup plus par jour en raison de l'efficacité des plateaux techniques.
Le ratio par 1000 habitants, dans l'étude que vous avez amenée, ça peut ressembler à quoi, nous versus eux?
Très, très bon point, ça, ici. Et c'est névralgique. C'est-à-dire, ici, on a à peu près 3 médecins par 1000 habitants. Lorsque vous regardez en Allemagne, c'est un peu extrême, ils en ont 7 par 1000 habitants. Et Pays-Bas et Suisse, on est autour de 4 par 1000 habitants.
Mais toutes spécialités confondues, de ce que je comprends.
Oui, exactement.
Okay. C'est peut-être là où c'est le nerf de la guerre, là?
Toutes spéciales. Ben, c'est que si vous avez, de façon générale, les gens vont choisir spécialité versus médecine familiale dans un ratio de 50-50, plutôt de 45-55. Donc, et pourquoi au Québec on manque de médecins? Je sais qu'il y a des gens, par exemple, M. Barrette dit régulièrement qu'il ne manque pas de médecins. Il a raison parce qu'il regarde par rapport aux gens plus de sa génération ou même des générations plus vieilles, mais il y a des changements anthropologiques importants au sein des sociétés. Hein? La conciliation travail-famille, avant, les plus vieilles générations, souvent il y avait une seule personne dans le couple qui travaillait, pouvait travailler plus d'heures. Des médecins aujourd'hui ou des infirmières qui travaillent 80 heures par semaine, je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais beaucoup moins qu'à l'époque.
Je parlais avec Dr. Gilles Lapointe, je ne sais pas si vous avez connu Dr. Gilles Lapointe dans le temps, mais c'est quelqu'un qui a fait énormément de télé, de radio, il travaillait auprès des aînés, puis lui, il me racontait que son père était médecin aussi, puis qu'il faisait du 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir, et il se rendait directement dans chaque résidence avec sa petite mallette de médecin, puis il allait soigner chaque patient, puis il voyait pas son père. C'était du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7.
Puis il y a ma médecin de famille avec qui j'ai eu une discussion récemment, qui elle disait que dans la capitale nationale, en ce moment, les médecins de famille qui pratiquent, pour 80% d'entre eux, ont 60 ans et plus dans la capitale nationale. 80% des médecins de famille ont 60 ans et plus parce qu'on a demandé aux jeunes d'aller beaucoup en région. On a empêché un peu un travail plus tard dans les grands centres parce qu'on en manquait. Mais ça fait en sorte que, justement, ils vont partir à la retraite presque tous en même temps puis qu'ils ont 80% de la clientèle.
Et lorsqu'on regarde un peu, les chiffres sont souvent biaisés. C'est un bon point que vous amenez. Lorsqu'on dit il y a de plus en plus de médecins, il y a de moins en moins de rendez-vous, mais aussi, c'est que ce qu'il faut le savoir, puis moi, je le sais, là, à la clinique où est-ce que je suis, pour chaque médecin qui part, qui suivait, qui est d'une génération un petit peu plus vieille, qui suivait 3000 patients, aujourd'hui, le nouveau médecin, il ne verra pas 40 patients par jour. Les plus efficaces en voient souvent 20, 22, des fois 15. Pour quelle raison? Bien, ce qu'on vient de dire, là, travailler 90 heures par semaine en 2024, souvent, ça amène des divorces. C'est un fait. Et l'autre chose, c'est la tenue des dossiers par rapport aux ordres professionnels. Ça a changé beaucoup par rapport à avant. On ne peut plus juste écrire trois lignes dans un dossier puis dire, OK, voir les patients 5 minutes dans le bureau. Ça a changé beaucoup. C'est sûr qu'on voit moins de patients, mais d'un autre côté, il faut se conformer également aux exigences qui sont de plus en plus exigeantes au niveau des ordres professionnels pour faire des tenues de dossier qui sont rigoureuses. Donc, il faut se rendre à l'évidence qu'on va avoir besoin de plus d'effectifs. Et c'est vrai pour les infirmières aussi. Si on regarde, on a à peu près 9 infirmières par 1000 habitants au Québec. Les pays qu'on étudiait, la Suisse, c'est 18. On ne peut pas atteindre la Suisse, c'est un pays qui est beaucoup trop riche. Ça, il faut le mentionner. Mais si on regarde Pays-Bas et Allemagne, ils sont autour de 11 à 12 médecins par 1000 habitants. Et ils mettent à peu près 1000 $, ces deux pays-là mettent à peu près 1000 $ de moins par habitant par année dans leur système de santé. Donc, lorsque M. Paul Saint-Pierre Plamondon dit que avec la souveraineté du Québec, on va avoir 5 milliards de plus par année pour le réseau de santé ou 5 à 7 milliards, puis ça va régler les choses. Si c'était juste une question d'argent, on le saurait déjà.
Mais c'est encore administratif. C'est les conditions, là, quand même, qu'on ait besoin de plus de personnes dans le domaine de la santé. Ça donne pas le goût à bien des gens d'y aller en ce moment en se disant, une mère monoparentale qui, en ce moment, a son dossier peut-être deux frasques parce qu'elle n'a pas accepté du temps supplémentaire parce que ses enfants étaient à la maison puis il n'y avait personne pour aller garder sa marmaille là, puis qu'elle n'avait pas le choix ou qu'elle est bien brûlée puis elle n'offre pas les mêmes soins parce que là, elle est encore sur un autre chiffre. Il y a tout ça qui se passe puis que ça jase aussi que la santé, c'est putain une belle vocation, c'est putain un beau métier. Il y a, dans le comparatif que vous avez avec d'autres pays à l'international, est-ce que les conditions sont très différentes?
Oui, et ça vient, les conditions différentes, ça vient quand beaucoup d'une libéralisation du réseau. Parce qu'on a l'impression, par exemple, que les infirmières, on en parle comme si c'était un groupe homogène de personnes qui voulaient toutes la même chose. C'est pas vrai, ça. La pire catastrophe, lorsqu'on a un réseau qui n'est pas libéralisé, qui est ultra-centralisé comme le nôtre, OK? Donc, comment je peux dire? Les conditions, on risque de perdre des gens du réseau qui vont décider d'aller faire complètement autre chose.
Mais c'est coercitif en ce moment.
Exact. Lorsque vous avez un système qui est plus libéralisé avec, oui, des cliniques privées qui peuvent mieux convenir à certaines personnes, des cliniques publiques, de la médecine de soins intensifs dans le public, de la médecine d'urgence dans le public, mais aussi des hôpitaux gérés par le privé et également, tout ça amène un éventail de possibilités pour les infirmières et les professionnels de la santé. Parce que, je vous donne juste mon exemple personnel, moi, je ne travaille pas au privé. Je pourrais y aller demain matin si je voulais me désaffilier de la RAMQ, mais le système public pour le type de médecine que je veux faire, moi, il me satisfait. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits et qui veulent autre chose. Le problème qu'on a avec les infirmières à l'heure actuelle, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas faire travailler pour l'employeur unique qu'ils considèrent pas excellent, qui est celui du système de santé publique, mais veulent donner leur service au privé avec des horaires qui pourraient leur convenir plus, avec des conditions qui pourraient leur convenir plus, sans la même sécurité de l'emploi que dans le public avec l'État, par contre. Donc ça, c'est un choix. Le problème, c'est que si on enlève cette libéralisation-là ou on le rend plus coercitif, on risque de vraiment perdre des gens. La libéralisation fait en sorte qu'on a un plus grand éventail.
Faites le ratio du nombre de personnes qu'on va perdre pour le privé, ça sera moins dramatique que le nombre de personnes qu'on va perdre, point, parce qu'en ce moment, les conditions sont pas optimales.
Tout à fait. Et monsieur, madame, tout le monde, ils s'en foutent là, de savoir est-ce qu'ils sont si la carte d'assurance maladie paie, comme le modèle, comme les modèles internationaux qu'on regarde, c'est-à-dire si vous allez dans un centre médical spécialisé, dans une clinique privée, la carte d'assurance, l'équivalent de la carte d'assurance de l'État peut payer, là. Donc, à partir de ce moment-là, le citoyen qui est soigné au privé n'a pas besoin d'être soigné au public. Donc, toute cette histoire que le privé cannibalise le public, la littérature internationale ne nous démontre pas ça. Ouais. Et la décentralisation du réseau, c'est quelque chose de très important et c'est un dénominateur commun de tous ces pays-là.
Docteur Elayoubi, en 30 secondes, parce que je sais que vous avez un horaire serré, puis votre attaché vient de me dire que vous n'avez pas de jet
encore
au Parti conservateur. En 30 secondes, autoriser l'assurance duplicative, donc un système d'assurance autant pour le privé que pour le public?
Oui, c'est-à-dire un système universel. Universel signifie que tout le monde est assuré. Okay? C'est obligatoire, l'assurance. Ça peut être soit l'assurance de l'État, soit une assurance duplicative, c'est-à-dire une assurance privée. Ça crée de la concurrence par rapport au système d'assureurs monopolistiques. Donc, l'assureur monopolistique. Et on l'a pour les médicaments au Québec,
pour
le mentionner.
Vous avez perdu le
monde, monopolistique. Monopole, exactement.
Envoyé un point d'interrogation.
Exactement. Pour l'assurance, c'est-à-dire l'assurance unique de l'État. Vous pourriez, avec votre employeur ou personnellement, souscrire à un assureur si vous considérez qu'il répond mieux à vos besoins que l'assurance de l'État. Le gros avantage, en 10 secondes, je vous le dis tout de suite, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque vous avez ce type d'assureur-là, ça va amener la création, puis c'est ça que c'est les modèles qui ont été étudiés, démontrent, ça amène la création d'un réseau d'offres de soins beaucoup plus innovatif et beaucoup plus large que lorsque c'est uniquement la RAMQ, un seul assureur, qui va rembourser. Ça, c'est très important et ça a été démontré particulièrement pour les soins à domicile du privé à but non lucratif, des OSBL, que ces assureurs privés-là utilisent beaucoup pour soigner les personnes âgées, pour aider les personnes âgées.
Non lucratif. Mais la compétition, je veux dire, amène, veut pas, des gens qui vont vouloir se surpasser. Là.
Oui, tout à fait. Il y a du privé à but lucratif et à but non lucratif. Faut bien le mentionner.
Docteur Elayoubi, merci beaucoup d'être passé en studio. Je souhaite de passer une belle journée. Vous êtes très occupé, d'après ce que je peux voir. Merci d'être passé, c'est gentil.
Ça m'a fait grand plaisir.
Merci
à vous.
Docteur Karim Elayoubi du Parti conservateur du Québec. Parce que je vois qu'il y a des auditeurs qui me posent la question si l'entrevue sera disponible en podcast dans les prochaines minutes. Tom va travailler là-dessus pour vous mettre ça sur le BLVD.fm. Midi 47, on vient. Marceau, le